Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement excité parce que figurez-vous que dans quelques instants, nous allons rejoindre les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour une nouvelle clé de l'orchestre consacrée au génial ballet Petrouchka du compositeur russe Igor Stravinsky. Vous connaissez peut-être déjà le principe des clés de l'orchestre, un véritable voyage au cœur de l'orchestre, un éclairage passionnant et passionné des plus grands chefs-d'œuvre de la musique symphonique. C'est que chaque symphonie, chaque poème symphonique, chaque musique de ballet est un peu un monde à part entière. Le découvrir, le détailler, c'est comme apprendre à connaître une ville, du centre à la périphérie, du plus connu au plus secret. Et c'est ainsi qu'en expliquant de l'intérieur les plus grandes pièces du répertoire orchestral, en les éclairant par la parole et par l'exemple, les clés de l'orchestre permettent de connaître, de comprendre et d'aimer chacun de ces mondes. Nous rejoignons donc maintenant l'auditorium de Radio France, où nous attendent les musiciens de l'Orchestre Philharmonique, le public, ainsi que le jeune et brillant chef d'orchestre finlandais, Santtu Matias Rauvali. Bienvenue à la Maison de la Radio, bienvenue à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et bienvenue au chef d'orchestre, Santtu Matias Rauvali. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée à Petrouchka, une œuvre d'Igor Stravinsky. Monsieur Stravinsky, un génial compositeur russe, et aussi pianiste et chef d'orchestre, né en 1882, mort en 1971. On dit parfois de lui que c'est le Picasso de la musique, parce qu'il a changé plusieurs fois de style au cours de sa longue vie. Alors c'est au tout début des années 1910, juste avant la Première Guerre mondiale, que Stravinsky va devenir célèbre dans le monde entier, grâce à trois ballets. En 1910, L'Oiseau de feu, en 1913, Le Sacre du printemps, et entre les deux, Petrouchka, qui est entendu pour la première fois en juin 1911 sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris. L'œuvre remporte immédiatement un énorme succès, et c'est ainsi qu'à l'âge de 28 ans, Stravinsky devient la coqueluche du tout Paris. C'est l'époque des ballets russes, une troupe de danseurs fondée par Diaghilev quelques années plus tôt et qui comprend les meilleurs éléments du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, se produisant partout en Europe et aux États-Unis. Alors, à sa création, l'œuvre est écrite pour un très gros orchestre que Stravinsky va un petit peu réduire lorsqu'il va réviser l'œuvre en 1947. C'est cette version révisée de 1947 que vous allez entendre maintenant. Elle comprend 12 voix, 11 cuivres, tout un tas de percussions, le piano, la harpe, le célesta et bien sûr toutes les cordes. Comme toutes les musiques de ballet, elles se divisent en plusieurs scènes, en plusieurs tableaux. Et le premier tableau nous transporte sur la place de l'Amirauté de Saint-Pétersbourg, qui est l'une des plus magnifiques, des plus somptueuses places de Saint-Pétersbourg, au moment de la Semaine Grasse, c'est-à-dire un peu l'équivalent de notre Mardi Gras. Foisonnement de rythme et de mélodie. Thank you. j'aurais tellement voulu faire partie du public ce jour-là au théâtre du Châtelet en 1911, entendant ce début incroyable, foisonnant et en fait qui reproduit dans l'esprit de Stravinsky ce qui se passe lorsqu'on traverse une fête foraine ou une fête populaire. Et vous savez, on entend plusieurs musiques qui viennent de plusieurs places différentes et toutes ces musiques se mélangent dans le cerveau et c'est cette incroyable superposition de motifs qui caractérise ce début si joyeux, si coloré. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on détaille chaque musique entendue séparément pour mieux les superposer après. Moi, ce qui me frappe peut-être tout d'abord, c'est cet ostinato, ce mouvement continu des clarinettes, des cors et de la harpe qui représente, je suppose, l'ondulation de la foule. Il y a aussi une sorte de cri de rue. Vous voyez, quand les gens se hêlent les uns les autres ou vendent leurs marchandises, et ce cri de rue, il est donné par les flûtes dans l'aigu. Réponse des violoncelles. Et maintenant, un peu plus volumineux, le piétinement des basses. Le piétinement des basses. Le même motif que vous venez d'entendre est utilisé dans l'aigu pour ce qui semble être une sorte de chanson populaire qui serait chantée par Léo Bois, piano, flûte et piccolo. Et maintenant que nous avons détaillé tous les ingrédients de ce passage incroyable, on les superpose de nouveau, une joyeuse polyphonie de motifs. Du piétinement des basses qui lui-même s'était transformé en chanson, une sorte de chanson populaire dans l'aigu, se transforme encore pour prendre toute son ampleur et devenir une sorte de grand carillon libre, simple, populaire. Alors le thème que vous venez d'entendre, en fait, n'est pas un thème de Stravinsky. C'est un thème populaire, c'est un thème de Pâques, un thème de la région de Smolensk. Il faut savoir que Stravinsky a eu comme professeur Rimsky-Korsakov, qui était même plus que son professeur, qui était presque son père spirituel. Rimsky-Korsakov lui a enseigné l'art et la manière d'utiliser les thèmes populaires à l'intérieur des compositions classiques. Et donc, ce magnifique carillon, enfin j'appelle ça un carillon, que vous venez d'entendre, surtout avec les cuivres comme ça, rutilant, c'est un thème populaire, ce fameux thème de Pâques de la région de Smolensk. Alors, la musique poursuit son cours, et à un moment donné, comme une sorte de zoom cinématographique, nous allons nous intéresser à un instrument qu'affectionne particulièrement Stravinsky, l'orgue de Barbarie. Seulement, il n'y a pas d'orgue de Barbarie dans l'orchestre. Donc c'est avec les ressources des instruments de l'orchestre que Stravinsky doit imiter la sonorité d'un orgue de Barbarie. Et il le fait de manière absolument savoureuse. Il y a les flûtes dans l'aigu qui font le foulou foulou foulou, foulou foulou foulou, foulou foulou foulou. Et puis l'accompagnement par les clarinettes avec la basse qui est confiée à la clarinette basse. Pou, tu, tu, pu, tu. Ce qui donne maintenant, joué par les instruments de l'orchestre, ils se moquent de moi, là. J'essaye d'imiter un peu, mais ça va être mieux avec l'orchestre. Oh, c'est tellement joli. Alors, Stravinsky appartient à cette génération de Russes qui a été élevée avec l'idée de l'importance de la culture française. La France est très importante en Russie à cette époque-là, et d'ailleurs dans la haute société russe, on parle français. Stravinsky parle très bien le français, et très souvent, dans une famille bourgeoise, le professeur de musique, le maître à danser, la nourrice sont français. Et donc, de la même manière que Tchaïkovski introduit dans son célèbre ballet Casse-Noisette un certain nombre de chansons populaires françaises comme « Bon voyage, Monsieur Dumollet » ou « Malbrousse en va-t-en-guerre », et bien de la même manière, Stravinsky veut introduire dans son ballet Petrouchka une chanson française. Oui, mais laquelle ? Eh bien, il se trouve que lorsqu'il était en villégiature dans le sud de la France, à Beaulieu, juste à côté de Nice, Stravinsky adorait écouter un joueur d'orgue de Barbarie qui passait sous les fenêtres de son hôtel et qui jouait un certain nombre de rengaines. Il y a même des témoignages de ses amis qui disent que très souvent Stravinsky quittait précipitamment les déjeuners parce qu'il ne voulait pas rater en début d'après-midi le passage de l'orgue de Barbarie sous ses fenêtres. Il y avait une mélodie qu'il a particulièrement aimée, qui commençait à être très populaire à l'époque, et qui disait « Elle avait une jambe de bois, et pour que ça ne se voit pas, elle rajoutait par en dessous des rondelles de caoutchouc. » Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, qui a vraiment été très connue à l'époque. Seulement, l'erreur de Stravinsky, c'est qu'il pensait que c'était une vieille chanson française, comme « J'ai du bon tabac » ou tout à l'heure j'ai évoqué « Malbrousse en va-t-en-guerre », alors qu'en vérité, c'était une chanson qui avait été composée 3 ans plus tôt par un certain Spencer. Dans un premier temps, il l'a utilisé dans son ballet, très bien, tout va bien. Et puis à la mort de Spencer, les ayants droit se sont manifestés et Stravinsky a été obligé de négocier. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'on donne la musique de Petrouchka de Stravinsky, il y a 1/10 des droits qui vont aux héritiers de Spencer. Ça c'est pour la petite histoire. Maintenant je pense que nous avons tous envie d'écouter, orchestré par Stravinsky, toujours façon orgue de Barbarie, « Elle avait une jambe de bois ». J'adore. Et vous verrez tout à l'heure, quand il y aura le grand enchaînement de ce premier tableau, il y a un moment où on entend les deux flûtes qui font une sorte de, vous savez, de « tu » comme s'il manquait un peu d'air et hop, c'est reparti pour un tour. Alors, vous avez peut-être entendu cette ponctuation du triangle. En fait, c'est l'équivalent, vous savez, de ces petits timbres, comme il y a dans les sonnettes de vélo. Il y a la même chose sur certains orgues de Barbarie. En fait, je me demande même si ce qu'a connu Stravinsky, ce n'était pas ce qu'on appelle un limonaire, qui est un petit peu plus sophistiqué qu'un orgue de Barbarie, puisqu'il y a plusieurs registres de sonorités et un certain nombre d'instruments de percussion, grosses caisses, timbres, comme on vient de l'entendre, xylophones, etc. Et c'est peut-être un limonaire qui a entendu Stravinsky sous ses fenêtres à Beaulieu. En tout cas, à un moment, la mélodie de la jambe en bois, d'ailleurs je dis toujours jambe de bois depuis tout à l'heure, mais en fait à l'origine c'est jambe en bois. Elle avait une jambe en bois. La mélodie de la jambe en bois est reprise, superposée avec le timbre du triangle, une autre mélodie, une mélodie russe, une romance qui est jouée par le Célesta, des petits glouglous de harpe, des arpèges scintillant du piano, une sorte de motif obstiné chromatique au violon, et même tout en haut, on réentend le motif, vous savez, de cri de rue qu'on avait au tout début de la musique du premier tableau. Et c'est tout ça en même temps qui donne cet esprit un peu limonaire et toujours ce foisonnement de motifs propre à une foire. Donc, deuxième version de la jambe de bois version limonaire. Voilà, maintenant, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que on pourrait penser que Stravinsky utilise l'imitation de l'orgue de Barbarie ou du limonaire parce que c'est le sujet de Petrouchka, ça se passe pendant une foire, pendant la semaine de Mardi Gras, tout ça est tout à fait logique. Mais à la vérité, Stravinsky, toute sa vie, a été fasciné par les instruments mécaniques. Un peu comme Mozart, par exemple, qui aimait aussi beaucoup, qui était fasciné par les instruments mécaniques. Et dans de nombreuses œuvres de Stravinsky, on trouve ces imitations d'instruments mécaniques. D'ailleurs, en 1917, il va même écrire une étude pour piano mécanique. Et quelques années plus tôt, en 1914, il écrit une série de pièces pour son fils Soulima, qui n'a que 4 ans et qui commence à apprendre le piano. Et l'une des pièces qu'il écrit pour Soulima comporte une imitation d'orgue de Barbarie. C'est une délicieuse petite valse, une valse qui est dédiée à Erik Satie, que je vous propose maintenant de jouer, puisque c'est une pièce à 4 mains, et nous avons la chance d'être 2 pianistes, donc si Catherine en est d'accord, nous pouvons jouer cette petite pièce, donc écrite en 1914 par Stravinsky, pour son fils Soulima, qui n'a que 4 ans, donc tu as 4 ans, Catherine, et moi je suis ton papa. On est d'accord ? Alors, je mets en marche l'orgue de Barbarie que joue Catherine. Merci Catherine. Retournons maintenant à notre premier tableau de Petrouchka. Je vous propose de maintenant d'enchaîner tout ce que nous venons d'entendre en mettant l'accent peut-être sur deux éléments de forme. Déjà, ce qu'on pourrait appeler la forme kaléidoscope. Pourquoi j'appelle ça la forme kaléidoscope ? Parce que quand vous regardez à travers un kaléidoscope, il y a des bouts d'images qui disparaissent et qui reviennent. Certains éléments, comme le grand carillon, par exemple, ou la chanson de rue dans l'aigu, ou enfin l'ondulation de la foule, disparaissent, reviennent dans un joyeux mélange désordonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie particulière. Et puis, d'une manière plus générale, c'est une forme très traditionnelle qu'on appelle la forme ABA. La partie A, c'est la joyeuse polyphonie de motifs dont nous avons parlé tout à l'heure. La partie B, la partie centrale, c'est toutes les vocations de l'orgue de Barbarie. Et puis, bien sûr, la foule reprend ses droits. Moi, j'ai un peu l'impression, encore une fois, comme dans une scène de cinéma, qu'on a eu d'abord le plan général de la foire, et puis au centre, on a zoomé sur l'orgue de Barbarie, puis après, on a dézoomé, et on termine avec l'agitation joyeuse et désordonnée de la foire de nouveau. Donc, la foire de la Semaine Grasse de Saint-Pétersbourg. Thank you. Notre joyeux kaléidoscope de rythme et de mélodie vient donc de se terminer par un grand roulement de tambour suivi d'une double ponctuation. Alors le roulement de tambour, eh bien c'est le roulement de tambour du bonimenteur qui veut attirer les badauds, car il y a dans un coin de cette foire un petit théâtre de marionnettes. Donc roulement de tambour, venez, le spectacle va commencer. Alors, à la vérité, comme il s'agit d'une version pour orchestre, le roulement de tambour est joué par deux percussionnistes. Il y avait à la fois un roulement de caisse claire et un roulement de timbales. Et puis, tout de suite après, donc, une double ponctuation très savoureuse, puisqu'il y a d'abord un grand accord de tout l'orchestre, et juste après, une note très énigmatique, mystérieuse, dans le grave, du contrebasson. Tiens, on peut avoir de nouveau cette double ponctuation ? Merci Vladimir. Il a fait un magnifique fa dièse, vous ne trouvez pas ? Donc, ce fa dièse, en fait, c'est l'arrivée du vieux charlatan, le charlatan qui va donc animer ce petit théâtre de marionnettes. Et ce charlatan est accompagné d'une musique étrange, une musique confiée principalement au basson et au contrebasson. À ce moment-là, le vieux charlatan sort une flûte. Naturellement, c'est une flûte magique, une flûte enchantée. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu injuste pour les autres instruments de musique que ce soit toujours la flûte qui soit enchantée. Je ne sais pas si vous vous rappelez du joueur de flûte, le comte de Grimm, le joueur de flûte d'Hamelin, ou évidemment de la flûte enchantée de Mozart. C'est toujours la flûte qui est enchantée. On ne parle jamais du violoncelle enchanté, du trombone enchanté, de l'alto enchanté, du basson ou du hautbois enchanté. Non, c'est toujours la flûte. Enfin, en tout cas, il sort sa flûte, il fait entendre un solo qui va faire que le rideau du petit théâtre de marionnettes va s'ouvrir. Donc, solo de flûte enchanté. Magali, c'est à toi. Bravo Magali. Grâce à la flûte du vieux charlatan, le rideau du théâtre de marionnettes s'est ouvert et le public a découvert trois petites marionnettes. Trois marionnettes qui pour l'instant sont immobiles. C'est le moment du sortilège. Un très beau sortilège avec une musique mystérieuse, des cordes en sourdine, des gouttes de harpe et de célestat et le bégaiement du cor anglais. Le vieux charlatan va toucher du doigt, les unes après les autres, ces trois marionnettes. Et c'est ainsi que par quelques notes des flûtes et piccolos, nous allons réveiller successivement tout d'abord Petrouchka, puis grâce au piccolo d'Anastasie, une petite ballerine, et enfin un mort. Maintenant, tout est en place. Quand j'ai dit un mort, je m'en expliquerai tout à l'heure, c'est pas mort M-O-R-T, hein, c'est un mort M-A-U-R-E. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Donc tout est en place. Nos trois marionnettes sont réveillées. Petrouchka, la ballerine et le mort. Et je vous propose maintenant d'écouter toute cette arrivée du vieux charlatan dont Debussy disait que c'était son passage préféré de toute la partition de Petrouchka car il était fasciné par sa magie sonore et poétique. Thank you. Le vieux charlatan a animé les trois marionnettes. Animé au sens propre du terme, vous savez, ça vient du mot anima en latin, qui veut dire âme. Donc il a donné une âme aux marionnettes. Nos trois marionnettes sont maintenant réveillées et elles vont danser toutes les trois ensemble, une très rythmée, une très énergique danse russe. Début de la danse russe avec ce thème tellement énergique, tellement rythmé, qui une fois de plus n'est pas un thème de Stravinsky, qui est un thème populaire de la région de Totemsk. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Stravinsky l'utilise. Il l'utilise en déplaçant en permanence les accents. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein. Tarara, tarariridan, tan, tan, tararira, tan, tarira, tan, tam. Vous voyez, c'est un petit peu comme si, dans la parole, on disait la même phrase, toujours la même phrase, mais en déplaçant les accents. 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka. 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka. 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka. Et 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka. Je vois le chef qui se dit, mais il est vraiment complètement timbré celui-là. On peut essayer, je chante les paroles en même temps que l'orchestre, on essaye ça. 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka. 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka. 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka. Et 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka. Et ben ça marche très bien, super. Au centre de la danse russe, il y a un nouveau motif. Un motif du village de Bachevskaya, qui est utilisé pour mettre en valeur des danseurs solistes. Alors, je ne sais pas ce qu'avait Stravinsky dans la tête, mais évidemment, moi, danse russe, je vois tout de suite, vous savez, les hommes accroupis qui lancent les jambes à droite à gauche. Je suis totalement incapable de faire ça, mais je suis toujours très admiratif. Et c'est donc l'occasion de mettre en valeur des solos dans l'orchestre. Ça commence par, donc avec ce nouveau motif de danse, ça commence par le hautbois solo. Donc c'est Olivier qui est en valeur. Juste après, c'est le piano de Catherine qui va être mis en valeur sur ce même motif. Et toujours une autre version, toujours le même motif, mais dans une nouvelle orchestration, qui met en valeur cette fois-ci le violon de Ji Yoon, qui est le violon solo de l'orchestre. Nous avons là une des clés du langage de Stravinsky. Ce n'est pas le grand développement mélodique et harmonique des romantiques, c'est le fait, à chaque fois qu'il fait entendre de nouveau un même motif, d'en varier l'orchestration, les accents, le rythme. Alors je vous ai dit que ce deuxième motif était au centre de la danse russe, mais le premier motif va reprendre ses droits, va petit à petit faire oublier ce second motif, mais d'une manière très, comment dire, commedia dell'arte. D'abord il se superpose, il prend le pouvoir, et puis tout d'un coup, on a l'impression que on se penche sur le sort de deux personnes qui ont l'air particulièrement tristes. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs, dans une fête. Beaucoup de gens participent à la joie collective, mais parfois, l'énergie de la fête renvoie les personnes plus tristes ou plus mélancoliques à leur solitude, à leur tristesse, et par contraste, ça les attriste encore plus. J'ai un peu l'impression de cela quand j'écoute ce dialogue entre le cor anglais et la clarinette, entre Nicolas et Stéphane. J'ai l'impression qu'ils sont là, tous les deux dans un coin, en train de se raconter leur tristesse, de se tenir chaud, de se tenir compagnie. Très émouvant, très joli. On a trop envie d'aller les consoler. Et vous avez remarqué, c'est toujours le thème de la danse russe. 1, 2, 3, c'est la danse de Petrouchka qui est devenue ta-ra-ra-ta-ra-di-da-da-da-da. Le même thème, très ralenti. Alors, heureusement, Catherine est là pour les consoler avec toute son énergie habituelle. Et elle leur dit en quelque sorte, allez, faut pas se laisser abattre. Voilà, maintenant je pense que vous en savez assez pour que nous ayons le plaisir d'écouter d'un bout à l'autre la danse russe avec son premier motif de la région de Totemsk, le deuxième motif qui sert à faire tous les solos et puis le retour du premier motif avec toutes les petites variations que nous venons de détailler, la danse russe de Petrouchka. Thank you. La danse russe de Petrouchka de Stravinsky, c'est sans doute l'un des passages les plus populaires de ce génial ballet. Et maintenant, nous allons entrer dans le petit théâtre de marionnettes. Oui, parce que si Petrouchka commence et se termine par une scène de foule, il comprend en son centre une sorte de théâtre dans le théâtre. Une petite pièce pour théâtre de marionnettes va maintenant se dérouler sous nos yeux. Et elle met en scène trois personnages, le naïf Petrouchka, la coquette ballerine et le mort prétentieux mais avec des habits luxueux. Nous commençons par entrer dans la chambre de Petrouchka. Alors Petrouchka, c'est une sorte d'intermédiaire entre le polichinelle italien et notre Pierrot français. C'est le héros malheureux de toutes les foires et de toutes les histoires russes. Il se sait difforme, il se sait maladroit, il se sent seul, il souffre de cela. Et cette première partie de la petite pièce de théâtre de marionnettes nous permet en quelque sorte un portrait psychologique de Petrouchka. Donc Petrouchka est seul dans sa chambre, il souffre, il est malheureux, tristesse de Petrouchka. Pour chasser sa tristesse, il tente une sorte de pantomime. Vous savez, comme les enfants, quand ils veulent oublier leur tristesse et qu'ils chantent une chanson, qu'ils essayent de danser. Mais c'est une pantomime à laquelle on a l'impression qu'il ne croit pas lui-même. D'ailleurs, elle est tout le temps interrompue. Naturellement, Petrouchka est amoureux de la jolie ballerine. Un amour sans espoir, bien sûr. Justement, la ballerine vient rendre visite à Petrouchka. Elle entre dans la pièce de Petrouchka et ça met Petrouchka dans tous ses états. Agitation maladroite et désordonnée de Petrouchka. Cette agitation, cette maladresse un peu étrange fait peur à la ballerine qui se sauve, qui part de la chambre de Petrouchka, laissant seul notre pauvre pantin qui à ce moment-là se laisse aller à une crise de désespoir amoureux. Et vous allez voir que l'un des motifs qui le représente est entendu par les trois trompettes à l'unisson mais avec la sourdine, ce qui donne un timbre très nasillard à la trompette, le désespoir de Petrouchka. Voilà, je vous propose d'écouter maintenant cette première scénette hein, qui est le début de notre petit théâtre de marionnettes et qui est en vérité un petit portrait psychologique de Petrouchka. Et il paraît que à l'époque, celui qui incarnait le rôle de Petrouchka, le grand danseur russe Nijinsky, était absolument extraordinaire et provoquait aussi la stupéfaction de Stravinsky. Et pourtant, Stravinsky n'était pas toujours tendre avec les danseurs. Donc, dans la chambre de Petrouchka. Thank you.
C'était la première partie de notre clé de l'orchestre consacrée au ballet Petrouchka d'Igor Stravinsky avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Santu Mathias Raouvali. Premier violon, Gidoun Park. Responsable de la programmation éducative et culturelle, Cécile Kaufmann-Nègre. Assistant musical, Thibaut Perry. Musicien, metteur en onde, Rafik Evorkian. Prise de son, Jean-Louis Deloncle, assisté de Xavier Lévesque et Lucas Derode. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour découvrir la seconde partie des aventures de Petrouchka, toujours accompagné des talentueux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Dorian Seigre. À la semaine prochaine!